Entrevue. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Éducation, dialogue interculturel et citoyen. Je suis ce matin avec Madame Olga Mala de l'association Aidons l'Ukraine Dijon. Et Madame Mala vient de se rendre dans son pays, l'Ukraine. Elle en revient et nous allons pouvoir la questionner sur la situation du pays, ou du moins des régions qu'elle a visitées. Et elle va nous rappeler pourquoi elle a visité son pays. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, expliquez-nous un petit peu votre démarche et ensuite peut-être en deux temps. Premier temps pour nous parler un petit peu de la situation en Ukraine, comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent et quelles sont leurs attentes. Et ensuite voir un petit peu les raisons pour lesquelles vous êtes allé en Ukraine par rapport à la reconstruction et à l'avenir du pays. Commençons donc par votre démarche personnelle.
Ces voyages en Ukraine qui étaient bien émotifs pour moi, il y a deux raisons. Je peux diviser mon voyage en deux, c'est voir comment les gens, sans être dans la guerre, et habiter en Ukraine. Bien sûr que j'ai vu ma famille, beaucoup de monde, je dirais, de ma famille, mes amis, mes connaissances. Et deuxième objectif, c'était visiter nos partenaires et les grandes villes, et voir qu'est-ce qui se passe par rapport à villa. Ils ont besoin de quoi, comment ça se passe, économie, la vie. Et gérance, on peut dire, de la vie de la mairie et de la région là, et qu'est-ce qu'ils rêvent d'avoir par rapport à la reconstruction de l'Ukraine et futur de l'Ukraine. Voilà. Donc je peux dire que je voulais revoir mon pays, à comprendre comment les gens vivent aujourd'hui, comment elle soutient la guerre et comment la vie change et qu'est-ce qu'est la future pour les gens. Et pour les mairies, pour les infrastructures, voilà, pour les business.
Alors, peut-être commencer par la situation des gens. Mm-hmm. Comment vivent-ils cette guerre qui dure? Quelles sont leurs difficultés et quelles sont leurs attentes?
Alors, aux premières choses, je peux dire, comme dès mon arrivée à Kiev, j'ai entendu, c'était une alarme aérienne à la gare. Et du coup, on était demandé d'être dans les passages sous-sol entre deux gares à Kiev. Et pendant que le système d'alerte fonctionnait, et du coup, comment ça se passe? Les messages sont arrivés tout de suite sur les téléphones des gens. C'est très, très organisé. Et du coup, on a resté 2 heures... là, pendant cet fonctionnement de système d'alerte. Mais pour vous dire que c'était très intéressant de voir cette réaction pour les systèmes d'alerte, c'est qu'en réalité, c'est très différent. Pourquoi? Parce que pendant une sirène, tout s'arrête, les magasins, la poste, les services administratifs. Mais cela ne se fait pas panique. Ça fait, je pense, que beaucoup de discipline pour les gens. Et du coup, les gens ont appris à vivre avec cette menace constante sans qu'elle domine leur quotidien. Mais il faut comprendre que les sirènes sont les alarmes, ouais, c'est différent. Et du coup, les systèmes de notification marchent très très bien en Ukraine, c'est-à-dire que les gens peuvent tout de suite aller sous les caves, sous les ce système d'hébergement urgent, mais c'est selon du coup les menaces. Ils regardent s'il y a des drones, si c'est missile, à quel côté ça arrive, si c'est juste alerte. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais très étonnée, mon deuxième journée à Kiev, et j'étais au café à l'extérieur, que les systèmes ont commencé alerter des gens et personne ne bougeait. Moi, je dis, pourquoi elle ne bouge pas? Elle m'a dit, Olga, regarde ton téléphone. C'est une menace, mais ce n'est pas confirmé. Donc, il a dit, moi je dis, mais vous bougez pas, les gens, voilà, restent sur place. Il m'a dit, oui, parce que regarde bien, il faut comprendre, c'est pas l'attaque, c'est une menace. Et si vraiment il y a quelque chose arrive, comme missile balistique, on a une minute et demie, tu vas rien faire. Donc les gens, ils s'inquiètent pas pour rien, on peut dire. Hein. Ils ont habitué à vivre ça. Ça, c'était impressionnant pour moi parce qu'on vit pas ça ici. Voilà. Et après, ensuite, je suis allée dans ma ville natale. Et c'est ville natale aussi de président Zelensky et qui s'est située à peu près 60 km de la ligne de front. Donc ça veut dire que... limite, mais les gens habitent là, ils continuent la vie. Là aussi, il y a des attaques, des drones, parfois des bombardements, mais la vie continue. Et j'étais touchée par la force et la solidarité des habitants, parce qu'ils gardent les courages. Pour moi, cette courage aussi est partie de leur vision de la future, parce que c'est réveillé tous les jours. Après, on a l'alarme pendant la nuit qui les gens n'endorment pas, ils se réveillent. C'est la ville industrielle, il y a beaucoup de travail sur l'industrie métallurgique. Ils se réveillent, ils continuent de vivre, ils continuent de travailler. C'est vraiment impressionnant, cette la fidélité au travail. Et malgré les alertes, les coupures d'électricité, ils travaillent, ils avancent. Et c'est pour ça, je trouve que cette fidélité aussi, ça montre... cette envie de vivre, de rêver de la future reconstruction de l'Ukraine, et c'est comme obligation à eux-mêmes de se réveiller et continuer à vivre. Pour l'école, c'est les maîtresses qui sortent, qui vont, même s'ils n'ont pas dormi, les gens continuent à travailler à l'hôpital, même s'ils n'ont pas dormi la nuit. Et du coup, cette énergie de coopération, je trouve que c'est quelque chose de remarquable. Pour nous, pour moi aussi, et ce que je n'ai pas vu avant, peut-être ça existait aussi dans les temps normaux et ça existe en France, mais pendant la guerre, c'est quelque chose qui remarquait voilà, mon âme. Voilà.
Ce que vous ressentez, Madame Mala, c'est que la population, même si elle est fatiguée, inquiète, continue à croire à la possibilité de gagner la guerre et continue à avoir confiance dans l'État.
Oui, exactement. Et du coup, j'ai parlé aussi à mon cousin, par exemple, qui est chauffeur d'ambulance. Il voit beaucoup des attaques. Voilà, il est toujours sur place s'il y a quelque chose arrive. Mais il dit qu'il croit beaucoup à l'Ukraine. Ils ont uni. Il ne veut pas quitter le pays, pas du tout, même si lui, il a 30 ans. Et c'est vrai qu'il attend fin de la guerre. On ne parle pas de victoire, parce que victoire, c'est aux Jeux Olympiques. Hein. Ici, ce n'est pas la victoire, c'est fin de la guerre. Et maintenant, on est tous en Ukraine, on comprend nos mamies, papy, nos arrières, grands-parents, qui jamais parlaient de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Jamais. Ce n'était pas la victoire pour eux, c'était la fin de la guerre. Et maintenant on comprend, parce que avoir autant victimes, la vie cassée, etc., c'est pas la victoire qu'il attend, c'est fin de la guerre pour construire l'avenir. Mais c'est aussi ce que je veux dire, c'est cette attendance de liberté, cette liberté de choisir et de rêver. Pour moi, c'est aussi une démocratie. C'est ce qui est différent avec autocratie, avec les pays de dictature, avec les dictatures. C'est-à-dire que les gens sont libres à penser pour l'avenir. Ils sont libres pour choisir. Ils réveillent ce matin, le matin, ils sachent que il faut aller travailler, mais c'est ça les vraies démocraties, pour être, pas être libre de dire quelque chose, mais être libre de penser dans les futurs et vivre dans les futurs aussi. C'est ça liberté pour moi. Et il comprend que la liberté maintenant, c'est pas juste être libre à dire ce que tu veux dire ou écrire ce que tu veux dire. C'est liberté, c'est avoir les pays démocratiques où tu peux te réveiller matin et être sûr que tes enfants peuvent aller librement à l'école, gratuitement à l'école. Tu as les systèmes médicaux qui travaillent bien et que toi, tu peux être soigné par ce système. Que l'État prend soin pour toi, que tu es libre à faire des choses pendant que l'État prend soin des choses basiques de ta vie. Voilà, tu ne vivras pas avec instinct de survivre tous les jours. Et ça, c'est impressionnant de voir qu'il y a deux choses pour moi, par émotion, on peut diviser. Il y a grande proactivité des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils vont faire, ils veulent faire la reconstruction, innovation par rapport à la guerre, par rapport à la vie quotidienne. Ils répondent très vite aux nouveautés, ils répondent très vite à travailler. Ils travaillent très longtemps, ils travaillent jusqu'à 10 heures, les magasins sont ouverts jusqu'à 10 heures. Pas parce que c'est comme ça, ils me parlent déjà en Ukraine par rapport à la balance de travail, la vie personnelle. Mais au même moment, ils disent qu'il faut soutenir notre économie. Que ça marche, qu'on peut vivre. Donc c'est pour ça que les gens travaillent longtemps. Donc il y a deux choses. Il y a beaucoup de proactivité de leur côté. Mais deuxième chose, c'est aussi cette malheur émotionnel avec les attaques de panique, avec dépression et de ne pas dormir la nuit. Donc il y a vraiment deux côtés positive et négative par rapport à les émotions. Donc les gens vivent ou là, et ça tombe tous les jours. Tu peux être ou actif ou dépressif, et je trouve que c'est très très difficile pour les Ukrainiens vivre en cet état.
Alors je ne sais pas si c'était le cas, mais il y a malheureusement beaucoup de personnes qui meurent au front, essentiellement des hommes, mais pas que, parce que je crois qu'il y a des femmes combattantes, hein. Ce qui est particulier à l'Ukraine. Et puis, donc, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens blessés ou des gens qui ont perdu de la famille. Comment ça s'est géré? Et il y a un deuxième point, je me permets de l'évoquer parce que j'y pense, qui est important pour les Français à comprendre, c'est que là-bas, les gens de moins de 25 ans ne peuvent pas combattre, sauf peut-être volontairement. En tout cas, ils ne sont pas appelés par l'État, par le gouvernement. Ce qui est original, parce que dans tous les pays du monde, ce sont les très jeunes gens de 16 ans à 25 ans qui meurent. Et là, pour le coup, ce sont des gens de plus de 25 ans et même des retraités qui partent volontairement au front, n'étant pas gênés du tout, au contraire, que les jeunes, eux, peuvent suivre, enfin vivre et continuer l'aventure du pays. Un petit peu nous parler de ces deux points.
Alors, effectivement, les gens qui ont perdu leurs proches, c'est très difficile de parler. J'ai rencontré des militaires aussi. Et effectivement, je voulais parler comment ça se passe, la vie pour sa famille. Il a tourné la tête, il ne voulait pas parler de ça. Donc les gens qui ont perdu leurs proches, c'est toujours... C'est difficile, et je peux vous dire avec mon expérience personnelle aussi qu'il faut, des années pour arriver de parler sans pleurer, sans émotion de ça. Donc très difficile de parler aux gens de ça. Par rapport à les militaires, oui, ils ont fatigué psychologiquement, ils ont fatigué physiquement aussi. Mais c'est vrai que l'Ukraine laisse les choix pour les gens aller à la guerre ou pas aller à la guerre. Et moi, je trouve que c'est bien honnête. Et maintenant, je ne sais pas, il faut vérifier pour aujourd'hui s'ils ont accepté les lois où les gens plus que 60 ans peuvent aussi servir, parce qu'on a beaucoup de gens plus que 60 ans qui voulaient aller, mais ils ne pouvaient pas par rapport à la loi. Mais du coup, ils voulaient augmenter cet âge, qu'il y a beaucoup d'envie pour protéger l'Ukraine. Et je comprends. Et il dit, les gens plus que 60 ans, il dit que ça doit être moi, mais pas mon fils, pas mes enfants. Donc là, ça reste libre. Mais j'ai rencontré aussi un jeune qui allait à 18 ans à la guerre, et toujours là. Donc maintenant il est 22 ans, il m'a dit, il sert toujours avec son frère était grandement blessé, il était guéri, il est retourné aussi. Donc, il est, je vois qu'il est très très fatigué, mais il dit que je ne peux pas arrêter comme ça. Et même après blessure, c'est très difficile d'arrêter, à savoir que tes copains sont là. Et ça, c'est aussi, quand je parlais au militaire, il dit que quand ils sont ensemble pendant 2 ans, 3 ans au front, ça devient famille. C'est très difficile de se séparer. Et c'est très difficile de quitter. Ils sont très très unis là, ensemble. Mais ça reste très difficile pour eux, physiquement aussi, servir assez longtemps, se battre assez longtemps.
Est-ce que vous avez observé qu'il y a une prise en charge psychologique, enfin, en tout cas des moyens et des personnes qui se mobilisent pour prendre en charge les blessés? Mais je parle du point de vue psychologique, bon, du point de vue médical, j'ai compris qu'il existait beaucoup de choses, même si c'est difficile. Mais est-ce qu'il y a aussi des réseaux de soutien psychologique, notamment pour les gens qui reviennent du front ou les gens qui se reposent avant de repartir, ou les gens blessés?
Bien sûr qu'en Ukraine, ça existe, mais il faut comprendre que c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et même moi, comme présidente de l'association, j'ai eu une demande ici, en France, pour l'enfant qui était traumatisé par la guerre. Okay? Et on a essayé de trouver une psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute ici en France, avec une traduction qui peut aider cet enfant. Et du coup, les retours que j'ai reçus, c'est qu'on ne sait pas faire les traitements post-traumatisme de la guerre. Je ne sais pas si je disais correctement les noms de soins. Et les psychiatres, ils disent, on n'était pas formés. C'était quelque chose très loin de nous. À l'université, on n'a pas de cette éducation. On sait pas, on sait traiter post-traumatisme de différentes choses, mais pas de la guerre. Et il m'a dit que, monsieur, les professeurs de psychologie, il m'a dit, je ne peux pas prendre l'enfant parce que je ne sais pas faire. On n'a pas de pratique, on n'a pas de livre de ça. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui arrive à l'Ukraine. C'est quelque chose de très, très neuf, très nouvelle technique qu'il faut apprendre à faire. Et l'essai, bien sûr, aider les gens. Mais il faut comprendre que ça n'existait pas, ce traitement. C'est quelque chose qui se crée maintenant par les psychologues, psychiatres en Ukraine qui essaient de comprendre qu'est-ce qui marche pour eux, des médicaments, des traitements psychologiques. Donc ça se prend place que maintenant, et bien sûr laisser aider. Mais je vois que j'ai parlé à un militaire qui m'a dit qu'il faut nous comprendre, mais lui, je vais pas citer ce qu'il m'a dit, il a vu au front, c'est des choses horribles. Et moi j'ai dit, mais vous savez, on peut pas vous comprendre, vous avez vu des choses que nous on peut pas même imaginer, on peut pas vous comprendre. C'est pour ça, il faut vraiment cette lien psychologique entre militaires et civils, parce qu'eux, ils restent aussi dans ce monde des cauchemars, même s'ils ont, ils font retour dans la vie civile normale. Donc, c'est la question, voilà, je pense qu'il y aura une vague de thérapies, des nouveautés, des apprentissages pour les post-traumatismes de la guerre, comme pour les hommes, pour l'ancien militaire, et aussi pour les femmes et pour les enfants qui ont vécu pendant la guerre.
Oui, donc ça, on aborde la question de la fin de la guerre et de la reconstruction. On va y revenir. En tout cas, en France, on peut juste te dire en quelques mots qu'il y a un travail considérable qui est maintenant fait dans l'armée suite au traumatisme qu'ont subi les soldats français dans les différentes guerres internationales dans lesquelles ils sont intervenus, et qu'il y a des études très riches dont on a maintenant les résultats, de travaux suite aux attentats qui ont eu lieu sur le sol français, où là il y a effectivement de nouvelles écoles et de nouvelles pratiques qui se sont développées. Bien, nous allons aborder maintenant le deuxième point, qui est la question de la reconstruction et des liens entre la France, en tout cas certaines institutions de la France, et la reconstruction. Bien, nous continuons notre conversation avec Madame Olga Mala de l'association Aide en Ukraine Dijon. Suite à son séjour dans son pays il y a quelques temps, enfin récemment, et elle va nous parler des régions qu'elle a visitées, et surtout nous dire ce que les Ukrainiens attendent et projettent pour la reconstruction de leur pays, qui, nous l'espérons, évidemment, ne sera tardée.
Donc, la reconstruction, c'est une grande question généralement. La reconstruction ne peut pas être après la guerre, parce que quand la guerre est finie, on ne peut pas avoir cette pause entre fin de la guerre et reconstruction, ça va prendre du temps, donc il faut se préparer pour être actif, à savoir faire. C'est pas la question de venir et construire un bâtiment en dément, c'est les questions aussi de l'égalité, les travail avec l'Union européenne, avec différentes lois, donc c'est grande préparation et correspondance aussi pour les investisseurs, investisseurs qui viennent, pour les gens, les règles, donc c'est grand morceau de travail et c'est très bien de commencer maintenant. Il y a beaucoup de pays, il y a des fonds, il y a des crédits, systèmes de crédit qui travaillent pour ça. Et bien sûr que j'ai commencé cette thématique avec la mairie de ville de Kribilich, ma ville natale. J'ai vu qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Mais pour eux, évidemment, c'est des reconstructions, construction de centres de réhabilitation, centres médicaux, parce que c'est la ligne de front. Il y a beaucoup de blessés qui arrivent là et c'est les blessés qui sont graves. Et bien sûr, ces infrastructures incluent des projets de l'eau, parce que c'est toujours difficile. Et comme on peut voir cette nuit, l'Ukraine était très très gravement bombardée par la Russie, la structure énergétique. Et par exemple, la moitié de Kiev restait sans électricité aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il y a des projets de ce côté-là, et l'aide appréciée pour tout. Après, j'ai vu l'ancien président de la région de Kirovograd et elle, son objectif, c'est construire le centre de réhabilitation pour les femmes qui viennent de la guerre. On a beaucoup de l'aide pour les femmes, les séminaires psychologiques, on peut dire les types de colonies de vacances à l'ouest, mais il n'y a pas de centre vraiment construit dédié de ça. Donc, bien sûr que les femmes, elles ont besoin aussi, femmes de la guerre. Et après, je suis allée à Vinnytsia, nos partenaires, les partenaires de la ville de Lijon et Oblast de Vinnytsia, partenaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai vu adjoint de maire de Vinnytsia qui travaille aussi pour, qui est responsable pour enfance et médecins, et j'ai présenté notre projet avec l'agence de démocratie de Vinnytsia, qu'on est en train de construire ensemble. Ça s'appelle Forum démocratique pour les jeunesses, et on veut faire ce forum en ligne entre jeunesse active de la région Bourgogne-Franche-Comté et la jeunesse de la région de Vinnytsia, pour qu'ils puissent collaborer, mettre en place cette collaboration par rapport à la question de démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est notre futur au début. Et c'est très intéressant de voir leur avis par rapport au futur, qu'est-ce qu'ils pensent de démocratie, et voir aussi des choses qui sont bien faites en Ukraine, parce qu'en Ukraine, elle a commencé à construire la démocratie toute seule après l'Union soviétique. Et c'est un chemin un peu particulier, mais je trouve qu'il y a des choses très bien qui sont faites en Ukraine par rapport à la démocratie. Il y a bien sûr des problèmes, et même chose en France, donc faire cet échange. Et on espère qu'on peut accueillir les jeunes de l'Ukraine en mai pour le mois de printemps en Europe, ici à Dijon, pour faire échange vis-à-vis comme ça ici à Dijon. Donc c'est notre projet ensemble. De quoi on a parlé. Et bien sûr, j'ai rencontré aussi le premier vice-adjoint, vice-président de la région de Vinnytsia, ça s'appelait comme ça là. On a parlé pour aussi le projet par rapport à l'optimisation d'utilisation de l'eau, parce que l'eau, c'est problème pour l'Ukraine maintenant, utilisation et système, ils sont vieux, c'est système soviétique qu'il faut changer, il faut remplacer pour optimiser, pour économiser l'eau. Il y a un intérêt pour l'entreprise franco-ukrainienne qui était avec moi pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire aussi pour cette région-là. Et bien sûr, pour l'Ukraine, c'est aussi prendre tous les projets, toutes les idées, ils ont très très prête de travailler ensemble, collaborer, trouver des solutions. Il accepte tout le monde avec grand plaisir et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de cette proactivité et envie d'aider, construire l'Ukraine pour les futurs. Et bien sûr, selon les règlements de l'Union européenne, on espère que l'Ukraine sera acceptée bientôt aussi dans l'Union européenne.
Oui, donc vous avez parlé de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez parlé de la ville de Dijon. Donc nous rappeler peut-être en quelques mots comment ces institutions que nous aimerions rencontrer d'ailleurs à ce propos, comment ces institutions travaillent avec l'Ukraine, parce que je crois qu'il y a eu des échanges ici même en Bourgogne-Franche-Comté il y a peu de temps.
Oui, ils ont la délégation de Vinnytsia, ils ont venu en mai. Il y a une partenariat qui est signé entre deux villes, la ville de Vinnytsia et la ville de Dijon, et entre deux régions, la région de Vinnytsia et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, ils ont des projets ensemble. Les projets qui essaient de créer, je ne vais pas parler à leur nom, mais on travaille aussi tous ensemble. Donc, c'est-à-dire que pour mon projet de jeunesse démocratique, je suis soutenue par la ville, par la région. J'ai présenté bien ces projets-là. Ils sont bien intéressés aussi de soutenir ce projet-là et travailler ensemble. Je sais qu'il y a une collaboration qui se passe entre établissements médicaux, CHU de Dijon et certains l'hôpital à Vinnytsia, mais je ne peux pas dire plus. Voilà, c'est les projets de la ville de CHU de la région.
Très bien. Par contre, ce qui est intéressant, donc, nous avons des élus et des institutions très engagées qui représentent des partis de l'arc démocratique, en tout cas en France. Ce qui veut dire que... Alors, est-ce que la population, puisque vous êtes maintenant en France depuis quelques temps, est-ce que vous sentez sur la population un attachement au projet ukrainien? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore trop d'ignorance? Parce qu'on sait qu'il y a de la propagande qui passe par différents biais pour essayer de considérer que le combat des Ukrainiens est inutile et qu'en plus, il ne serait pas crédible parce qu'il y aurait une histoire particulière avec la Russie qui échapperait totalement à l'Europe et à la France. Comment vous ressentez, en tout cas, dans les gens que vous connaissez, le rapport à cette question-là, sachant qu'on sent bien, alors ça, je peux en parler au niveau de la radio, dans les gens avec qui nous parlons, que évidemment, les gens craignent qu'on envoie des jeunes Français combattre en Ukraine, comme n'importe où d'ailleurs. Hein, c'est la même préoccupation. Comment vous ressentez, en tout cas, actuellement, les Français que vous rencontrez?
Alors, les Français, je trouve actifs, mais bien sûr qu'ils ont peur d'aller dans un pays en guerre. Et je comprends aussi, c'est normal d'avoir peur et de comprendre que la reconstruction est beaucoup moins possible. Il y a beaucoup de contraintes pour, dans certains niveaux pour d'aller en Ukraine. Il y a côté bureaucratique, bien sûr, qui existe moins en Ukraine, qui empêche des collaborations, des réactions et des actions. Et quand cette empêchement bureaucratique se mélange avec propagande russe qui est en France, c'est ça qui met arrêt pour les projets, je pense, et avoir faire les créer cette peur pour les Français, parce que bien sûr qu'il y a propagande russe qui travaille ici à tous les niveaux, et inclut aussi la reconstruction de l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe à la guerre, la future, etc. C'est difficile, il faut avoir vraiment pensée critique de filtrer l'information. Et on entend l'information, je comprends que c'est difficile de filtrer. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, la propagande russe travaille très bien parce qu'on ne voit pas la fin de la guerre, on ne comprend pas où elle est. Place pour la France, là, ou la place de l'Ukraine en futur. Ils mettent beaucoup de questions dans les têtes des Français, propagande russe. Voilà.
Alors, j'en profite, puisqu'à la radio, nous avons eu la chance de rencontrer un groupe de femmes réfugiées en France suite à l'invasion russe, dont que vous avez aussi contribué à animer. Et que sont devenues ces personnes que nous avons rencontrées? Puisque je pense qu'il y a plus de, gens qui viennent d'Ukraine se réfugier en France. Je pense que les choses sont à peu près équilibrées. Certaines sont reparties d'ailleurs. Mm-hmm. Il y a peut-être des allers-retours, ça j'ignore. Mais en tout cas, les gens que nous avons rencontrés, que sont-elles devenues? Et globalement, ont-elles pu intégrer avec une certaine satisfaction la société française?
Je dirais que tout va bien. Les gens comprennent que plus important, c'est travailler, parler français. Bien sûr qu'ils cherchent ça. J'ai toujours les cours français pour améliorer. Et moi, je pousse un peu de parler avec les niveaux. Ils ont progressé eux-mêmes parce qu'en attendant les cours français, ils sont bloqués. Mais il y a plus en plus de gens qui travaillent. Et ils trouvent que c'est bien, bien pour eux. Ils sont contents de travailler. C'est aussi intégration dans la société. Il y a nouveaux arrivés de temps en temps, mais c'est plutôt nièce, mamie, papy qui vient de la famille. Il y a très peu repart pour aller en Ukraine. Donc nous, ça reste plutôt stable.
Oui, est-ce que dans ces gens-là, certains qui travaillent et qui ont même fait une formation, je crois, dans certains cas, est-ce que finalement l'idée de rester en France est possible si les choses évoluent bien, évidemment, pour l'Ukraine?
C'est une grande question de intégration. Il y a un grand rôle jouent les enfants. Pour vous dire qu'il y a les enfants qui sont intégrés ici, c'est-à-dire que c'est très important. Je suis maman aussi. C'est très important que mon enfant va bien. Et comme ça va bien à l'école, et les enfants sont bien. C'est plus important pour les mamans. Donc ici, ils voient qu'ils ne veulent pas bouger, bien sûr, pour leurs enfants. Et c'est ce qui se passe aussi que j'ai vu en Ukraine, il y a moi, les enfants dans les rues, petits-enfants dans les rues, comme avant, je pouvais comparer, ça m'a un peu impressionné. Mais il y a des adolescents. Donc ça veut dire que les enfants plus grands qui comprennent la guerre, qui sont psychologiquement plus forts, ils ont resté là en Ukraine, ils grandissent avec la guerre. Mais les mamans avec les petits, ils ont parti. Et c'est avec qui on travaille, qui on croise tous les jours. Et c'est plus important pour eux d'être stables et avoir vie calme avec leurs enfants. Donc on ne peut pas savoir comment ça sera en futur. Mais bien sûr que certains m'ont dit tout de suite qu'on veut bien rester en France. Mais certains, ils disent, nous, on hésite. Notre papa, il est à la guerre. Donc évidemment, ils ne battent pas pour ce qu'on reste en France. Même si on est intégré à la façon que les enfants vont à l'école, pas le français, ils vont retourner en Ukraine. Voilà. Donc il y a différentes histoires, différentes familles. Il y a récemment, une semaine, deux semaines, j'ai une famille qui allait aux États-Unis. Ils trouvaient que c'était pas bien. Ils sont revenus ici à Dijon parce qu'il y a une connaissance aussi ukrainienne ici à Dijon. Et ils trouvent que c'est mieux être en France, juste pour les questions, s'il y a des gens qui arrivent. Voilà.
Très bien, écoutez, je vous remercie, Madame Olga Mala. Donc, j'étais avec Madame Olga Mala de l'association Aidons l'Ukraine Dijon. Nous avons parlé de la situation actuelle de l'Ukraine. Nous sommes en octobre 2025, puisque Madame Mala rentre d'un voyage dans sa région d'origine et où elle développe un projet en lien aussi avec des habitants et des institutions de la ville de Dijon. Donc, à très bientôt sur Shalom Bourgogne dans votre émission Éducation, dialogue interculturel et citoyen.
Entrevue. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.